C'était un engagement électoral du gouvernement. Souviens-toi, on avait parlé avec François Bonnardel de la coalition Avenir Québec, qui en entrevue était devenu très émotif en parlant de sa propre mère qui a été aux prises avec la maladie d'Alzheimer. Et l'engagement électoral était le suivant. Si on est au pouvoir, on va très sérieusement analyser la possibilité d'offrir l'aide médicale à mourir pour les personnes qui vont éventuellement peut-être avoir l'Alzheimer, mais pour que les gens puissent faire un consentement préalable à l'aide médicale à mourir en remplissant un formulaire. Là, il y a un groupe d'experts qui est en train de colliger plusieurs informations. Il y a un rapport qui sera rendu prochainement. La ministre de la Santé, Mme McCann, a une ouverture, donc, à pouvoir le permettre selon, évidemment, plusieurs critères, encore une fois. Mais ce matin, dans le Journal de Québec, on a les statistiques d'un sondage léger qui sont assez claires. Les résultats sont assez clairs. Au Québec, 74 % des gens sont d'accord à ce qu'une demande d'aide médicale à mourir soit faite de manière anticipée à l'aide d'un formulaire officiel dès qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer est posé, alors que la personne est encore lucide. C'est un petit peu plus bas pour le Canada en entier à 66 %, mais quand même. On va aller rejoindre quelqu'un qui s'y connaît en la matière, mais qui également souligne d'autres alternatives qui existent à l'heure actuelle même pour les gens qui sont aux prises avec ce type de maladie-là ou d'autres, mais qui ne sont pas éligibles pour actuellement l'aide médicale à mourir. On va rejoindre le docteur Georges L'Espérance, qui est de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Docteur L'Espérance, bonjour.
Oui, bonjour, M. Tremblay.
Comment allez-vous?
Très bien, vous-même, je vous remercie.
Ça va très bien, ça va très bien. Je vous demande la question de prime abord. Est-ce que vous croyez que ces statistiques-là sont assez fortes pour que le gouvernement se dise que les gens sont prêts à aller là?
Ben là, vous me posez une question qu'il faut poser à un politicien. Mais si on prend pour acquis que les politiciens sont là pour répondre en tout au moins en partie, en tout cas au désir de la population, je pense que les chiffres sont très clairs. Et on se fait demander la même chose dans des conférences, dans des séances d'information, par courriel. C'est la grande inquiétude des gens lorsqu'ils auront une maladie dégénérative cognitive, Alzheimer ou autre. Ils ne veulent pas traîner dans des endroits et dans une condition indigne. Et ça, quelle que soit la qualité des soins, hein, vous avez beau mettre 8 000 $ par mois pour vos vieux parents dans un immeuble. S'ils sont en détérioration cognitive, il n'y a aucun soin qui va pouvoir améliorer cela. Il n'y a rien qui va ramener leur mémoire non plus.
Il y a quand même des opposants qui se font entendre sur ce point-là. Entre autres, j'entendais Maître Jean-Pierre Ménard, qui, lui, est un avocat, donc sur le point de vue légal, est totalement contre ça. Il y en aura d'autres, parce que là, on s'apprête à faire des consultations sur la question. C'est pas gagné d'avance, même si la population semble d'accord.
Ah non, écoutez, le dire, c'est une chose, et comme je répète toujours, l'opérationnaliser, c'est tout autre chose. C'est pas la semaine prochaine qu'on va avoir une loi comme ça qui ouvre. Il y a plusieurs aspects à envisager. Les aspects légaux, les aspects notariaux, les aspects familiaux, psychiatriques, médicaux. Mm-hmm. Et c'est pas du tout facile à régler comme question. Mais je pense qu'il faut se poser les questions. Et en particulier en bout de ligne, là, finalement, pour arriver à un point où, comme d'ailleurs les sénateurs le comité conjoint des sénateurs et des députés fédéraux l'avaient dit dans leur recommandation avant C-14, avant l'adoption de la loi fédérale, dans la recommandation numéro 7, disait il va falloir penser à ce que les gens qui souffrent, qui se font donner un diagnostic de maladie dégénérative cognitive puissent avoir l'aide médicale à mourir lorsqu'ils le décideront ou lorsque sera venu le temps selon eux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire, mais ça me paraît inévitable qu'on aille vers là progressivement.
Essayons d'être pragmatiques et le plus concret possible pour éviter justement de s'égarer. Donc, ce que les gens ont dit, ou étant relativement pas mal en accord, là, surtout au Québec, à l'ordre de 74 %, c'est de dire on devrait être capable de demander l'aide médicale à mourir anticipée dès qu'on reçoit un diagnostic d'Alzheimer. C'est bien ça?
Tout à fait.
Mais ça veut pas dire que dès qu'on reçoit le diagnostic, on demande à mourir. Ça veut dire que dès qu'on reçoit un diagnostic, on veut avoir le droit de remplir, pendant qu'on a nos facultés intellectuelles ou quand même une relativement bonne possession de nos moyens, de dire, écoutez, quand ça sera trop avancé, lorsque je serai plus l'ombre de moi-même, je veux mourir, mais je vous en fais la demande là, et ce sera par un verdict d'Alzheimer qui est présentement pas reconnu.
C'est tout à fait ça. Vous avez très bien résumé. Toute la problématique réside dans le quand. Quand est-ce que ça va être fait? Par qui? À quel moment? Donc là, on peut élaborer toutes sortes de votre idée est aussi bonne que la mienne.
Donc, il n'y a pas d'épuration de personnes qui ont les l'Alzheimer puis qui n'en ont pas fait la requête avant. Autrement dit, si Pépère ou ma mère a l'Alzheimer puis bien avancé, même si cette loi-là passe, si elle n'avait pas donné son aval à ça, on peut pas mettre fin à ses jours.
Ah ben ça, c'est tout à fait clair. Et nous, c'est l'association, et pour moi comme médecin, c'est une ligne qui ne faut absolument pas franchir. Et là-dessus, c'est ce que Maître Ménard voulait dire, que je connais par ailleurs très bien, non? C'est tout à fait indiqué. Il est hors de question de donner de l'aide médicale à mourir chez des gens qui n'en auront pas fait la demande au préalable. Et c'est une ligne à ne pas franchir, c'est parce que là, on s'en va dans l'eugénisme, ce qui est tout à fait différent. Et donc, ça, c'est une ligne à ne pas franchir, et de façon très, très claire. Moi, jamais on n'exigera ça, d'aucune façon.
Mais docteur Espérance, à prime abord, moi, je suis favorable à donner mon consentement écrit. Par contre, on ne le sait pas au bout de la ligne quand la maladie est à un stade plus avancé. Du moins, moi, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, mais quand tu es rendu à un stade beaucoup plus avancé, est-ce que tu es si mal que ça? T'sais, est-ce que la personne, ultimement, à un stade avancé, pourrait ne pas être capable de l'exprimer, mais que finalement, ça va bien, c'est
positif?
Dans
sa bulle, puis d'attitude, je ne sais pas, hein?
Écoutez, vous avez bien fouillé votre dossier. C'est une autre problématique. Il y a des gens qui ont un Alzheimer qui sont dans le dernier stade, 6 ou 7, et qui sont recroquevillés, qui ont des douleurs. On le voit, ils expriment, non pas de la souffrance, parce que ça prend une certaine conscience, mais au moins de la douleur, comme n'importe quel autre mammifère. On ressent la douleur, on a des grimaces, etc. Et il y en a d'autres, comme disent les familles, ils ont de l'air tout à fait sereins dans leur chaise ou dans leur lit. Ils ont de l'air très bien. Qu'est-ce qu'ils pensent? On n'en sait rien. Donc, on n'en saura jamais rien. Je veux dire, ce sont des genres de questions du sexe des anges. On peut ergoter très, très longtemps là-dessus. On ne saura jamais.
Mais c'est pas ça le problème de la médecine, justement? Est-ce que c'est pas ça le problème de votre métier ou le problème de la médecine à trancher, de dire que vous devez, j'utilise encore le terme pragmatique, on peut pas rien laisser au hasard, mais on n'est pas capable de vraiment savoir exactement ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui est dans un dernier stade de l'Alzheimer. Donc, est-ce que justement c'est dur de trancher si on n'a pas de certitude par rapport à l'état d'esprit d'une personne?
Ben ça, c'est sûr qu'on pourra jamais le faire. Par rapport, pas seulement à l'Alzheimer, d'ailleurs, toute personne qui a perdu ses facultés cognitives, un accident vasculaire cérébral massif, le coma, etc., on peut pas savoir ce qui se passe. Le problème revient, à mon avis, à moi, mais ça c'est mon avis, à la dignité de la personne humaine selon ce qu'elle perçoit au moment où elle est tout à fait apte à juger de sa propre vie et de ce qui l'entoure. Par exemple, il y a des gens qui sont, dans mon métier, des gens qui sont quadriplégiques, qui ont eu une très belle vie, qui ont une très belle vie selon leurs propres critères, et c'est parfait ainsi. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, en autant qu'on leur donne l'aide, et comme société, il faut le faire. Chez un patient qui, par ailleurs, n'a plus aucune faculté cognitive, s'il a émis le désir dans le passé que lui ne voulait pas se retrouver dépendant de tout un chacun pour chacun des mouvements et des simples petits gestes de sa vie, je pense qu'il faut aussi respecter ça dans le cadre de la dignité de la personne humaine, de la personne qu'on a devant soi. Mais vous posez les très bonnes questions. Qui va le faire? Qui va donner l'aide médicale à mourir? À quel moment? Selon quels critères? C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Mais à mon avis, ça devient inévitable un jour ou l'autre, parce que l'espérance de vie, même si elle va ralentir, là, elle continue tout de même de progresser. On arrive à la limite des capacités humaines. On n'est pas encore dans Star Trek, là, où on change à peu près chaque organe, incluant le cerveau. On n'est pas là encore. Et ce ne sera pas demain la veille qu'on va y être.
Ça va cheminer, on va voir comment tout ça sera défini. Par contre, avant qu'on se quitte, je voulais absolument qu'on parle de ce qui est possible actuellement. Parce que il y a des possibilités quand même si c'est pas jusqu'à l'aide médicale à mourir, de définir certaines choses dans un formulaire qu'on ne veut pas ou qu'on préfère pour notre condition de santé. Depuis 2015, il y a possibilité de le faire.
Exactement.
Et ça ressemble à... Comment on fait la démarche pour être en mesure de définir ça?
En fait, la démarche, elle est simple et tout le monde devrait la faire. Vous écrivez directive médicale anticipée sur votre moteur de recherche. ça va vous amener directement sur le site de la RAMQ ou encore vous visitez notre site à l'association. On va vous donner les indications. Et vous, soit vous remplissez le formulaire que vous téléchargez et que vous imprimez, et ou encore vous le faites venir par la poste. Mais ce qui est important, c'est d'envoyer le formulaire complété à la régie d'assurance maladie. Ça va vous coûter un timbre. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le notaire, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, à moins d'être multimillionnaire, là, c'est peut-être mieux d'aller chez le notaire. Mais pour le reste, vous faites vos directives médicales anticipées, vous envoyez ça à la RAMQ, et à partir de ce moment-là, vos directives sont indiquées dans le réseau de la santé, partout où vous pouvez arriver. Et normalement, les médecins ou le personnel infirmier devraient vérifier si vous avez indiqué vos directives médicales anticipées.
Exemple,
ça m'amène à vous dire que vous pouvez faire cela, quel que soit votre état de santé. Bien entendu, il faut que vous soyez apte à le faire, mais vous pouvez avoir n'importe quelle autre condition. Mais ce que ça veut dire, les directives médicales anticipées, c'est si j'arrive à un moment donné de ma vie où je dois être intubé, où je dois avoir un massage cardiaque, je ne veux pas. Et ça peut aussi vouloir dire si j'arrive à un moment de ma vie où je ne peux plus m'alimenter moi-même parce que j'ai une maladie dégénérative, Alzheimer Road, ben je refuse toute hydratation forcée ou artificielle, ainsi que toute nutrition forcée ou artificielle. Donc, à ce moment-là, vos directives sont très claires et le personnel est obligé, les médecins, le personnel infirmier, est obligé de respecter vos directives médicales anticipées. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait dès maintenant.
Écoutez, vous me parlez de ça, puis la dernière fois que j'ai été voir ma mère, parce qu'elle n'est pas dans la même région que nous ici, elle m'a parlé de ça. C'est pas des moments le fun. Ma mère n'est pas très vieille et est en santé, c'est correct, là, mais ma mère m'a présenté ce dépliant-là et elle me l'a montré. C'est pas ce qu'on appelle aussi dans le jargon aussi un genre de refus d'acharnement médical ou un truc du genre, là, c'est ça?
Il y a un petit peu de ça aussi. Ouais, c'est-à-dire que les directives médicales anticipées peuvent éventuellement vous protéger contre l'acharnement.
C'est ça. Et est-ce que ma mère m'en a parlé, elle me l'a expliqué. Est-ce que, effectivement, pour éviter des problèmes légaux ou notariales, c'est important que les personnes qui remplissent ça en parlent à leurs proches?
Absolument. C'est un excellent point. Il ne suffit pas de l'envoyer à la RAMQ. Il faut aussi le dire on dit toujours aux enfants ou aux neveux et nièces, en tout cas quelqu'un de plus jeune que vous. Et donc, vous dites, bon, mais voici, moi, mes directives sont complétées. Je t'en donne une copie. Il y a aussi mon docteur qui en a eu une copie. Et les gens autour de moi en ont une copie. Et si jamais j'arrive à l'hôpital dans une condition X, Y, Z, ou encore que je suis hospitalisé depuis 3 ans et que là, je ne veux plus m'alimenter, ben mes directives sont là. Je ne peux pas avoir l'aide médicale à mourir dans l'état actuel de la loi, mais je peux décider ce que je veux ou non comme traitement. Ça fait partie de la Charte des droits, ça fait partie des droits de tout un chacun, et vous avez le droit de refuser tous les traitements. Vous dites, c'est pas agréable d'en parler, c'est vrai, mais si vous voulez, 100% d'entre nous, on va faire face à la mort, donc autant se préparer.
Docteur L'Espérance, merci beaucoup.
Ça me fait très plaisir. Bonjour à vous.
Au revoir. Docteur Georges L'Espérance, qui est de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Ils ont un site web, effectivement, où vous pourrez avoir davantage de détails sur le deuxième volet qu'on a abordé avec lui. Puis, c'est vrai, c'est intéressant. J'ai visité une résidence de personnes âgées récemment et sur la porte d'une des résidentes, c'était écrit « Pas de réanimation ». Non, ça m'a quand même shaké de voir ça. Donc, probablement qu'elle avait rempli son formulaire et tout ça, mais même pour les ambulanciers, c'est clair, regarde, pas de réanimation dans son cas si jamais elle a besoin. Et puis là, on se pose la question, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pas valide? Là, on comprend maintenant qu'avec un formulaire comme ça, quand c'est clair, net et précis, ben regarde, c'est déterminé, puis ça a valeur légale depuis quelques années déjà.
Et c'est ça qui est important.
C'est pas l'ultime aide médicale à mourir, on ira peut-être éventuellement là, mais...
C'est ça que les gens ne connaissaient pas. Moi-même, je ne connaissais pas l'existence de ce formulaire-là jusqu'il y a quelques mois. Puis, je vous le dis, là, c'est un drôle de feeling. Mais monsieur le docteur a raison. 100% du monde qui nous écoutait présentement, vous allez tous péter aux frettes un moment donné. Tout, moi y compris, toi, on va tous mourir. Et à moins d'être en chicane avec ses parents, là, on veut tous avoir nos parents en santé puis le vieillir le plus longtemps possible avec eux autres. Donc, même si c'est une démarche qui est très, très, très logique, là, ou en tout cas, tu as un papier ça, c'est pas le fun, parce que moi, quand ma mère me parlait de ça, en plus, elle a arrêté de fumer, elle a fait de l'exercice, pour une madame dans la soixantaine, elle est plus en forme qu'elle était dans la cinquantaine, mais comme elle voit sa mère qui est rendue au stade quasiment neuro-végétatif, pour pas dire légumes, pour manquer de respect, elle a dit, garde, moi, là, si jamais je me ramasse dans la même situation, je veux pas d'acharnement. Fait que, oui, l'aide médicale, c'est une chose, à mourir, donc tu accélères un processus vers la mort, mais le refus de traitement ou d'acharnement, appelle ça comme tu veux, c'en est une autre, c'est-à-dire que, regarde, quand je serai plus, quand mon corps par lui-même fournira plus, merci, bonsoir, je vais partir. Et pour certains, c'est un palliatif à l'aide médicale à mourir, donc si vous êtes dans cette réflexion-là, informez-vous de ce dépliant-là. Peut-être que pour vous, ça répond plus à vos besoins. Puis surtout que c'est présentement, ça existe. Mm-hmm. Tu sais, il y a des gens qui disent « Oui, mais l'aide médicale à mourir n'est pas là encore. » Non, ben oui, là, mais je veux dire, pas pour l'examen, mais pour d'autres choses, ça existe. Donc, on ne déclenchera pas la mort, mais on ne vous maintiendra pas en vie artificiellement. Et ça, je pense que ça fait partie de la dignité.
Absolument. Je parlais de réanimation tantôt. Tu sais, une passée à 30 ans, là.
Tu peux le faire, mais ça ne te tente pas. Ça me tente pas après ça. T'sais.
Une réanimation, tu peux très, très bien vivre après ça si tu n'es pas malade, parce que Dr. L'Espérance disait il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas de condition médicale pour ça. Il y a des choses, par contre, qui ont rendu un certain point, là, ça devient plus intéressant de le spécifier sur ce formulaire-là. Mais je le répète, on a eu la discussion ensemble la semaine passée.
Ouais, ouais.
Moi, je te le dis, le formulaire pour l'Alzheimer rendu à un stade bien défini où j'aurai signé et que les balises seront claires, nettes et précises, je te signe ça demain matin. Dicky, t'es favorable aussi? Toi, t'hésitais?
C'est le fun parce qu'on avait un spécialiste de santé qui nous a confirmé un peu, pas la crainte, mais la petite interrogation spirituelle que j'ai de dire, c'est, écoute, même lui, même le docteur d'expérience, il sait pas comment ils sont. Il y en a qui sont dans la tête. Puis c'est vrai ce qu'il dit. Hein? Il y a des gens d'Alzheimer qui ont des douleurs. Tu le vois de la manière qu'ils se tiennent, qu'ils se crispent. Puis il y en a qui sont juste pas là. Ma grand-mère, c'est ça. Elle est assise, elle regarde la fenêtre, elle se peigne un peu, puis c'est tout. C'est ça, sa journée.
Ça revient, donc, ta décision à voir ce que ta grand-mère est, la jouissance de la vie qu'elle a l'air d'avoir... et du fardeau, entre guillemets, qu'elle devient pour tout le monde. Si toi, dans cet état-là, tu veux pas faire subir ça ou encore plus ou moins l'air d'avoir de la jouissance de la vie.
Ben, tu sais, puis encore là, ça dépend à quel point tu es égoïste. Là, je dis égoïste, mais c'est un terme qui est galvaudé. Elle, peut-être qu'elle souffre pas, mais elle fait souffrir sa famille un peu. Il y a tout le temps quelqu'un de la famille qui est obligé d'y aller tous les jours. Puis, tu sais, elle dit qu'elle se peigne, mais elle se peigne rien qu'à moitié. Mais il y a d'autres personnes qui font de la maladie mentale ou de la dégénérescence mentale ou de l'Alzheimer. Qui, en plein milieu de la nuit, ça gémit, ça bug, ça crie, ça tape sur le monde, puis sont en plein délire, puis sont tout le temps en train de se lamenter. Là, je pense pas qu'il y ait une grande qualité de vie. Maintenant, si la personne est sur le bord de la fenêtre, puis regarde la fenêtre, puis elle chantonne un peu dans sa tête, elle n'est plus là, mais est-ce qu'elle est mal pour autant? C'est une autre affaire. Par contre, ben si tu peux signer ça avant, de dire, quand je vais être à ce stade-là, là, même si j'ai l'air d'être un peu perdu, mais ça sera fini. Alors, moi, je pense que ça fait partie, effectivement, du respect de la dignité des gens. C'est pas facile, c'est pas le fun comme décision. Je vous le dis, c'est pas le fun d'en parler.
Mais on aura toujours le choix.